بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاعه الإسلام لا semaine dernière on avait rappelé les bases concernant an tu'mina billah, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. On avait rappelé donc que la croyance en Allah, la croyance bil malaika, croire aux anges, aux livres révélés, les six piliers de la foi, ce sont là les choses essentielles pour le croyant et la croyante. Il est extrêmement important que le musulman prenne conscience déjà qu'il est de mon devoir de développer mes croyances en Allah et les six autres piliers de la foi. De la même façon, que nous avons intégré l'importance de rester assidu à l'accomplissement de la salat, au jeûne du Ramadan, c'est-à-dire les actions qui sont extérieures. On avait expliqué la dernière fois, on avait rappelé la nuance qu'il y a entre islam et iman. On avait dit que islam, c'est les actions extérieures. Et alhamdoulilah, la majeure partie des croyants, des musulmans, alhamdoulilah, on donne beaucoup d'importance à notre islam, à notre pratique de la religion. Maintenant, concernant le iman, les qualités de la foi, ça c'est quelque chose de plus subtil, parce qu'on avait dit que le iman est quelque chose de caché, c'est quelque chose qui n'a pas de trace, qui n'est pas palpable, mais ce sont là des croyances, des valeurs qu'on doit développer dans le cœur. Et la dernière fois, on avait beaucoup insisté sur « an tu'mina billah », l'importance de connaître Allah Azza wa Jal. Et la meilleure façon de connaître Allah, c'est de connaître notre Seigneur par le biais de son kalam, idéalement, par le biais de sa parole. Via la parole d'Allah Azza wa Jal qui est le Coran. Et ce n'est pas pour rien, si le prophète alayhi salatu wa sallam nous a rappelé que celui qui s'accroche au Coran et à la sunna ne sera jamais égaré. Et les savants disent que s'accrocher au Coran, c'est développer une relation permanente et régulière avec le Coran. De quelle façon? Par la lecture, bien sûr. La lecture, alhamdoulilah, la plupart d'entre nous, on lit, nous lisons le Coran. Mais ne pas se limiter à la lecture, en plus de la lecture, faire un pas vers la compréhension des versets du Coran. Et lorsqu'on a compris les versets par le biais de la traduction, bien sûr, et puis par le biais des tafsirs qui existent dans toutes les langues, alhamdoulilah. Et l'étape suivante, c'est l'objectif principal de la révélation, c'est mettre en pratique les versets. Faire en sorte que le Coran devient vivant dans notre vie. Quand on demandait à Aïcha, d'autres sahab, d'autres époux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment était ce comportement, kana khuluquhu al-Qur'an, son comportement c'était le Qur'an. Ça veut dire quoi? Il y a que tout ce qu'on voit comme ordre interdit, comme acte noble suggéré dans le Qur'an, on le retrouvait dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien, ça ne se limite pas à des versets. Alors, très souvent, malheureusement, sans porter de critique directe envers personne, on n'est pas en droit de le faire, mais notre conception du Coran, très souvent, elle est spectaculaire. On a besoin d'un Coran spectacle. On a besoin d'un Coran spectacle. Alhamdoulilah, il y a un qari d'Égypte qui va venir dans quelques jours. C'est une très bonne chose. Ça permettra à Mashallah, au public réunis d'écouter une lecture du Coran sublime accomplie par de grands spécialistes, des gens qui vraiment, ils ont donné leur vie pour la lecture, pour la maîtrise des makharij al-huruf, des tajwid, des règles de psalmodie du Coran, différentes façons de lire, c'est quelque chose de tout à fait noble. Il n'y a rien à redire là-dessus. Écouter un qari, lire le Coran, c'est un acte d'adoration que d'écouter le Coran, d'accord? Mais ce qui est désolant, et c'est un constat qu'on le fait et on le fera encore, et j'espère qu'un jour ça va changer, c'est que quand vous voyez la motivation qu'il y a au sein de la communauté pour aller écouter un qari, lire le Coran, c'est quelque chose d'énorme. Vous avez la grande mosquée, quand il y a le qari qui vient, vous avez 800, 900 personnes, c'est blindé. Ça fait plaisir, Wallah. C'est pas qu'on est contre, bien au contraire, quand on voit 900 personnes de la masjid qui viennent écouter Kalamullah, ils ne sont pas allés à un concert, non, ils viennent écouter la parole d'Allah, il y a de quoi être content et fier que, alhamdoulilah, notre communauté, les musulmans, ils ont, mashallah, un attachement pour la parole d'Allah. Et ça, c'est yubashiru khair. Ça, c'est un signe de qu'il y a du bien encore dans le cœur des gens. Mais ce qui est paradoxal, c'est que pour la salat al-Isha, il y a 800 personnes qui viennent écouter le qari. Lendemain, salat al-Fajr, il y a 100 personnes. Ils sont où le reste? L'homme, ils dorment. Dites-moi, qu'est-ce qui était plus important? De venir à la Salat al-Fajr, de se réveiller pour accomplir un pilier de l'islam ou d'écouter une salle maudite du Coran? Sans porter une quelconque critique, on n'est pas en droit de juger les gens et Allah est le seul juge, mais pour qu'on arrive à voir le décalage qu'il y a entre ce qui nous paraît être une réalité de la religion et le fond de la religion. Le fond du dîn, c'est de développer une relation permanente avec Allah et ne pas s'arrêter à des micro-événements ou se suffire de périodes. Sinon, ça devient une religion traditionnelle. Ce n'est plus une religion spirituelle. Qu'est-ce qu'on appelle la religion traditionnelle? C'est, on va dire, c'est un héritage culturel. Pour beaucoup de gens, par exemple, on cite le mois du Ramadan. Le Ramadan, c'est important. Nos parents, nos grands-parents ont toujours jeûné. Ça fait partie de nos habitudes, de nos traditions. Ce n'est pas ta tradition, ça. Ce n'est pas tes habitudes. Ça, c'est ton dîn, ça. Ça, c'est un tazkiya pour toi, ça. Le Ramadan, c'est une purification intérieure. C'est une manière de nous rapprocher d'Allah, de développer les qualités du iman, de faire les actions quand on n'a pas envie de le faire ou quand c'est dur, quand on est fatigué, salat al-dhuhr, il fait chaud, on est en état de jeûne, on a soif, ben on se casse, on y va quand même. On fait passer l'ordre d'Allah avant nos besoins, nos envies. On a faim, on a soif, on a envie de faire telle chose, ben le corps te dit, va faire ça, tu lui dis non, par amour et par crainte d'Allah. Ça c'est iman, c'est ça Ramadan. Et d'une manière générale, les a'mal, les actions du dîn ont pour objectif de ramener les gens vers une dévotion. Voilà, la dévotion. Parce que l'ibada, c'est at-tadhallul wal-khudu', la dévotion pour Allah Azza wa Jal. Se soumettre totalement à Allah Azza wa Jal. Alors que quelqu'un qui, uniquement durant le mois béni, il va être présent, il va faire plein de choses. Quand il y a un grand lecteur qui vient, il va être présent. Mais après, le reste de l'année, il n'y a plus de lecture du Coran, il n'y a plus de présence à la salat. On voit qu'il y a un décalage. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que le Coran a été révélé. Maintenant, si on peut rassembler les deux, nour ou ala nour. En même temps, on vient, on écoute, on profite, mashallah, et en même temps, on est là dans les prières, on essaie d'avancer dans la religion, c'est l'idéal. Donc, vous voyez, à travers cet exemple, on a ce qui est extérieur, et puis on a les qualités intérieures à développer. C'est une crainte d'Allah Azza wa Jal qui doit être permanente, qui doit être mulazim, qui ça doit être une qualité, comme on dit, intrinsèque aux musulmans, une pensée d'Allah. D'où l'importance du bab. On s'est rarement attardé sur un chapitre comme Muraqabatullah. Le chapitre 4 ou 3, je pense, de l'Ad Salihin, c'est le chapitre jusqu'à maintenant lequel on s'est le plus attardé, parce que ça, c'est iman, ça. Muraqabatullah, c'est avoir la pensée d'Allah de le cœur tout le temps, en permanence. Ne jamais oublier Allah. Ça, c'est un croyant. Un croyant, c'est celui qui n'oublie jamais Allah. Fi sarra'i wa dharra, dans les moments de bonheur, dans les moments de difficulté, dans les moments de joie où tout va bien, dans les moments compliqués où malgré ça, on ne se rebelle pas contre le destin, on s'en remet à Allah. Dans les moments de joie, on ne se dit pas que j'ai gagné, j'ai eu parce que je suis, parce que je m'appelle un tel, parce que dans mon compte en banque, il y a tant de zéros après les chiffres, virgule, etc. Non, c'est uniquement parce qu'Allah a bien voulu m'accorder, me gratifier, m'honorer, il m'a accordé. Malik al-mulk, tu'til mulka man tasha. Et je retiens également qu'Allah, il reprend le mulk quand il veut. « Wa tanzi'u al-mulka biman tasha » Allah donne l'honneur, « Wa tu'izzu man tasha » Et Allah déshonore qu'il veut, « Wa tudhillu man tasha » Ça, c'est qualité d'un croyant. C'est quelque chose qui doit être permanent. Nous. Et on va revenir à la première phrase d'introduction. Connaître notre Allah, notre Rabb, ça va augmenter notre iman. Et la meilleure façon, c'est par l'étude des versets, les paroles d'Allah, et également par l'apprentissage, par le fait de connaître un peu plus jour après jour les sifat d'Allah Azza wa Jal, les noms et les qualités sublimes d'Allah. Et la dernière fois, on avait fait un petit rappel sur Sami', Basir, Qadir et quelques sifat qu'on avait rappelés et qui sont essentiels. Il y en a, mashallah, autant de noms d'Allah, les 99 noms. Les 99 noms d'Allah reflètent 99 sifat également. Maintenant, alhamdoulilah, si tous les jours ou toutes les semaines, tous les mois, on peut développer, parce que plus on va connaître Allah, comme on l'avait dit, plus on sera motivé pour faire son ibad. Quand on va se prosterner, on va ressentir c'est quoi cette prosternation. On va réaliser devant qui on est. Et quand on sera face à un haram, on va être conscient que qui est-ce que je suis en train de désobéir à Allah ? Qui est-ce que j'ai l'intention de désobéir ? Jamais je peux me permettre de désobéir à Allah qui entend tout, qui voit tout, qui est capable de tout, qui connaît même ce qu'il y a dans les cœurs, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, la santé, la maladie. Qui me dit qu'Allah ne me punit pas pour ce péché en m'enlevant la santé, en m'éprouvant par telle chose, en enlevant les bienfaits qu'il m'avait accordés. Donc, il est extrêmement important pour avoir une stabilité dans la spiritualité, dans notre iman, de connaître Allah. La deuxième branche, on est toujours dans le hadith de base, hadith Jibril. Lorsque le Jibril avait demandé au prophète donc les questions sur la foi, le prophète a répondu « croire en Allah ». Ensuite, il a dit « et croire aux anges, wa malaikatihi ». Et « al-malaika », dans certaines sources, il dit que dans toute la création d'Allah, neuf dixièmes de la création d'Allah, ce sont des anges. Tout ce qu'Allah a créé, 9 dixièmes, c'est-à-dire 90% des makhlouqat, des créatures, ce sont des malaïka. Et dans la même source, il dit que dans les... Hein, si on pouvait faire un gros fromage, on pourrait voir combien les 9 portions, il y a une portion seulement, c'est les djinns et les êtres humains. Et 9, ce sont les anges. Et dans les 9 dixièmes, ceux qui sont en fraction, dans les 9 dixièmes, il y a 90%, ce sont des anges qui ont été créés uniquement pour faire les tasbihs. Tasbihat d'Allah, les louanges d'Allah, basse. Et 10 poissons ont été créés pour des missions. Sur la terre, dans les cieux, révélation, faire la, pour la pluie, les récoltes, le risque, la subsistance, l'observation des êtres humains, protection, protéger. Il y a des anges, hein, l'expression française, l'ange, ange gardien, rien à voir avec Joséphine ange gardien, oubliez ça, ange gardien, c'est des anges qui sont là, ils rient, regarde ça tous les mardis soir, qui te protègent. Par la grâce d'Allah, contre les choses qui ne te sont pas prédestinées, ainsi de suite. Bref, dans les 9 dixièmes, il y a 90% qui ont été créés que pour faire subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, en prosternation, en recours. Et depuis qu'Allah les a créés jusqu'au Qiyama, ils restent en ibad. Qu'est-ce qu'on retient à partir de ça? Quelle est la grande leçon à retenir? Dites-moi. Que nos actes d'adoration ne représentent rien. Dans un hadith, il dit qu'il y a un ange que depuis qu'Allah Azza wa Jalla l'a créé, ça on l'a déjà répété au moins 3 fois, mais c'est tellement important pour que cette réalité rentre dans les cœurs. Il y a un ange depuis qu'Allah s'est établi, Mustawa ala al-Arsh, jusqu'au Qiyama. Cet ange est en prosternation devant Allah. Il fait les tasbihats d'Allah, et quand Israfil soufflera de la corne pour la résurrection, pour la fin du monde, là cet ange va se relever. Et il va dire, « Oh Allah, ma abidinaka haqqa ibadati, oh Allah, on ne t'a pas adoré comme tu le méritais. Il y a eu un manquement de nos adorations envers toi, oh Allah, il demande pardon, oh Allah. » Ça, c'est malaïka. 90% des malaïka ont été créés uniquement pour faire les tasbihats, les adorations d'Allah. Alors comprenez que si Allah avait besoin, a'oudu billah, et Allah, il est as-samad, il n'a besoin de personne, autonome. Si Allah avait besoin de créatures pour faire son adoration, ben, subhanallah, avec... Les malaïkas, il y en a suffisamment. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous alors? Si Allah n'a pas besoin de nos ibadas, n'a pas besoin de nos salats, n'a pas besoin de nos du'as, n'a pas besoin de nos larmes qui coulent quand on demande pardon, qu'est-ce qu'Allah il veut? C'est pas ça qui l'intéresse. Non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a même pas besoin de l'adoration des anges. Allah, il est tellement parfait qu'il a des anges, des malaïkas, hamalatul arsh, qui portent le trône d'Allah, mais Allah n'a même pas besoin d'eux. La preuve, quand Israfil souffle de la trompe, ses anges aussi meurent, comme tous les anges. Et Allah n'a pas besoin de personne pour le arsh, mais Allah a créé une organisation, un monde de makhlouqat qui suit le cours des choses. C'est ça, Allah, il est samad. Allahu Akbar. Quand on comprend ça, on réalise que comment on est infiniment petit et comment Allah, il est Allahu Akbar. On n'a même pas le droit de dire infiniment grand parce qu'il n'y a pas de terme, il n'y a pas d'adjectif pour qualifier al-azim. Le sublime, le magnifique Allah Rabbul Izza. Quand on voit les descriptions, les hamalatul arsh, entre, on l'avait déjà dit ici aussi, entre le talon du pied d'un ange et sa cheville, voyage, distance d'un voyage de 500 am, de 500 années. Ça, c'est la grandeur des anges qui sont proches d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, que dire d'Allah Azza wa Jal, ça, on n'a même pas le droit de réfléchir, d'essayer d'imaginer, mais par contre, ce qu'Allah nous a donné comme indication, ce sont ses sifat, ses qualités. Qui nous donne un aperçu de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, de ses qualités sublimes. Kama yaliqu bihi Azza wa Jal, comme cela sied Allah, laysa kamithlihi shay, et personne n'est comme Allah, personne ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Mais certainement, tout comme notre iman augmente quand on connaît les noms d'Allah, les attributs d'Allah, de la même façon, quand on connaît, on essaie d'approfondir notre connaissance sur le alam, le monde des malaïkas, on se rend compte que c'est tellement gigantesque, c'est tellement magnifique, c'est tellement sublime, la description des anges, comment ils sont beaux de leur forme originale, pas quand ils prennent des aspects et tout pour la révélation, autre chose, comment ce sont des créatures exceptionnelles, extraordinaires, quand on lit les hadiths qui parlent de la résurrection, que les anges descendent des cieux et comment ils déploient leurs ailes et ils sont remplis d'humilité auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont là des descriptions magnifiques qui augmentent la foi. Mais on a besoin de faire un pas vers le ilm. On a besoin de consacrer une partie de notre temps, de notre vie, à l'apprentissage de la connaissance religieuse. Parce que cela va donner une autre ampleur, un autre niveau, comme on dit, un autre level à votre salah, à votre saum, à votre zakat, à votre tilawat al-Qur'an, à votre dhikrullah. Autrement, une personne va continuer à faire ses ibadahs, et alhamdulillah, avec istiqama, c'est un des objectifs, mais la salah restera pareille. Que j'ai 25 ans ou 75 ans, la salah ne changera pas, il n'y aura pas plus de dévotion, il n'y aura pas plus de concentration, il n'y aura pas plus de frissons qui passent dans mon corps quand je vais me prosterner, quand j'entends les versets du Coran. Et ça, c'est aïb, c'est naqs, c'est une preuve de manquement, parce que le iman doit normalement augmenter tous les jours. La veille ne doit pas être semblable au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que, subhanallah, plus on va connaître Allah, plus on va connaître les anges et développer les 6 branches de la foi, ce iman va augmenter. Et quand on va faire les ibadahs, on va ressentir ce qu'on n'avait peut-être jamais ressenti de toute notre vie en termes de dévotion, d'amour et de concentration. Et c'est là qu'on aura un aperçu de la vie des sahaba. Je dis bien un aperçu. Ce sahaba qui reçoit une flèche lors d'une campagne, d'une bataille, et qu'il demande aux autres personnes, attendez, je fais 2 unités de prière, dans ma salah, vous enlevez la flèche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une flèche quelque part, en général, ça arrive rarement, d'accord? Ça ne doit pas être simple, moi non plus, mais ça ne doit pas être simple, d'accord? Parfois, quand vous avez un petit bout de bois, un chardon ou autre chose qui vous rentre dedans, ça pique, ça fait mal, mais quand on retire, ça fait plus mal que ça rentre. Regardez bien le film américain, vous savez, les Américains, ils ont toujours raison. Quand un gars coup de couteau, d'accord, le bouc il crie, ah, et tout ça, mais quand il peut tirer, il crie 2 fois plus. Pourquoi? Parce que quand on retire, c'est en train de recouper les vaisseaux, la chair, la peau, tout ça, c'est une douleur inimaginable. D'accord? Faites expérience, si vous voulez, avec une aiguille, avec quelque chose de pointu, essayez, si vous voulez bien comprendre le bayan, d'accord? Je ne vous conseille pas trop. Sahaba, il a une flèche, et quand vous recevez une flèche pendant la guerre, c'est pas des petits, c'est pas comme un petit marmaille joué, hein? Non, c'est l'ennemi voulait te tuer. Il t'a pas eu au niveau d'un organe, mais voilà, c'est rentré dedans. Il peut enlever ça. Mais la seule solution, c'est l'anesthésie générale. Ou alors, comment il faisait à l'époque, de saouler la personne, que la personne boive et que la personne soit en état d'ébriété, d'un état comatique, et là on parle. Ça, ah ben, pour lui, c'était hors de question, même pas négociable ce genre de pratique. Il a dit meilleure solution, je fais 2 unités de prière. Il y a un livre qui a été écrit par un médecin. Je pense que c'est un français, ou alors ça a été traduit. Il s'appelle Docteur Bousserolles. Si un jour on l'amènera. C'est un cardiologue, un médecin anesthésiste, et musulman, bien sûr, et qui a, alhamdoulilah, c'est un bagage en connaissance religieuse. Il a répertorié différentes histoires, différentes anecdotes qui montrent que avec image cérébrale à l'appui, hein, bon, c'est des choses qui sont un peu techniques, un peu difficiles pour nous, hein, faut être médecin peut-être pour comprendre, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau pendant le ibadah, pendant l'adoration. Idéalement, il y avait sur Facebook également un article à ce propos, le cerveau humain pendant la phase d'adoration, de spiritualité. Il y a quelque chose qui s'installe. Il a dit, il donne une explication, c'est une explication scientifique, nous on n'a pas besoin de ça pour y croire, d'accord? Il dit que quand il y a un niveau de dévotion, de concentration qui est développé, la spiritualité vous fait atteindre un tel degré que vous vous déconnectez de ce qui fait de vous des hommes, vos 5 sens. Parce qu'il y a une élévation spirituelle exceptionnelle. Il a cité l'exemple de ce sahaba qui avait donc cette flèche, hein, je ne sais pas si c'était de la cuisse ou alors de le dos, je ne sais pas où ça. Il a dit qu'il a fait 2 rakats de salat et pendant la salat, vous enlevez effectivement en enlevant la flèche. Dans sa salat, il avait une telle concentration parce qu'il connaît qui l'adore. Ce n'est pas comme nous quand on commence salat, qu'Allah me pardonne, peut-être moi en premier. Quand je commence Allahu Akbar, je dis Allah, dans mon cœur, je dis, est-ce que Ribéry va jouer contre la Biélorussie? Mon grand Fikar Umma. On a des Syriens, 500 qui meurent tous les jours. D'accord, avec des méthodes, Allah seul sait comment. Est-ce que Ribéry sera opérationnel pour la Biélorussie? Sinon, il y aura le barrage contre je ne sais pas qui, la Finlande va passer devant, et puis, etc. Fikar ou Matbay? Fikar. Allah musta'an. Dans une salade comme ça, où premier rakat, vous pensez à Ribéry, deuxième rakat, vous totalisez maintenant, comment appelle ça, les différences de but là? Faut oublier comment il dit, alhamdoulilah, on oublie ce genre de choses. D'accord, goal à virage et tout, pour voir est-ce qu'il y a une chose. Et troisième rakat, mes devoirs pour demain, quatrième rakat, mes projets, etc. Ben là, bien sûr, là, une mouche, c'est pas sous bois. Un fourmi, regarde le fourmi. Des fois, vous vous rendez compte que vous l'avez suivi pendant toute le tarawih. Alors qu'on parlait de VSC, Allah Akbar qui parle du Jannah, du Jahannam. Allah Musta'an, réalité, qu'Allah nous pardonne tous. Ben, avec une prière comme ça, mon frère, ça va pas loin. Mais ce n'est pas avec ça où va tirer un flèche dans la jambe. Mais Sahaba, subhanallah, c'était deux rakats. Hein. Et deux rakats, c'était comme nous, hein. Ce n'est pas deux rakats, ils lisaient des versets qui n'ont pas été révélés à la dernière partie de la Ummah. C'est le même Coran, le même Fatiha, les mêmes versets. Le même Isti'adha, le même Fatiha, le même Basmala et les mêmes ayats du Coran. Même s'il lisait long ou pas long, il avait cette dévotion, cette concentration. Ça, c'est juste pour avoir une idée du décalage de niveau. Décalage de niveau spirituel entre nous, les Sahaba. Et là, ça nous ramène vers ce que le Prophète avait dit à propos d'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, en disant, Sahaba, sachez qu'Abu Bakr ne vous a pas forcément dépassé par des kathratis salah, par beaucoup de prières, beaucoup de demandes, beaucoup, parce que nous, on veut des beaucoup, nous, ici. On veut qu'il y ait beaucoup. Il faut que tout soit en grande quantité pour être persuadé que tout va bien. Le Prophète a dit, non, mais lakin shay waqara fi qalbi, il vous a dépassé par quelque chose qui était dans son cœur, iman. Amour pour Allah, amour pour son Nabi alayhi salatu wa salam, crainte d'Allah. C'est ce qui fait que cet homme a atteint une dimension inégalable et inégalée et qui restera jusqu'au Qiyama le meilleur homme après les prophètes. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, n'avait-il pas donné plus d'argent lors de la campagne de Tabouk sur le plan quantitatif? D'accord? Abou Bakr avait tout donné, mais Uthman, quand il donne une partie de ses biens, c'était un millionnaire, c'était quelqu'un d'extrêmement riche. Donc, quand il donne une partie, ça couvre tout, normalement. Mais le sacrifice d'Abou Bakr était plus fort, parce que son niveau de iman avait dépassé tout le monde. Même si, je dis un chiffre au hasard, il a donné 1000 dirhams et Uthman a donné 10 000, mais son sacrifice est à un autre niveau. Parce qu'il donne tout pour Allah. L'amour pour Allah, dans son cas, c'est énorme. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de tous ces exemples? Pour nous ramener vers l'importance de développer iman. Tant qu'on ne développe pas iman, nos a'mal n'auront pas le niveau requis. Et si les a'mal n'ont pas le niveau requis, il n'y aura pas le maqsad, l'objectif des a'mal ne sera pas réalisé. Notre salat ne nous empêchera pas de « anil fahsha et wal munkar ». Ce qui est le but de la salat, « inna salat atanha anil fahsha et wal munkar ». Qu'est-ce qui fait qu'après la salat al-jum'a, quand je sors, je suis capable de rallumer ma cigarette, de remettre mes écouteurs de rap, écouter je ne sais pas quel abruti qui chante, je ne sais pas quoi, et de regarder la première tantine qui passe, et ainsi de suite, à n'en plus finir. C'est-à-dire que dès que la salat est finie, je me reconnecte avec Shaitan, avec Iblis, avec mes shahawat, avec mes hawa, avec mes pulsions, avec mes péchés. Ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal du tout. Et je parle pour nous tous, hein. C'est un constat, ce n'est pas des reproches. On est tous comme ça, wallah musta'an. Alors que normalement, quand quelqu'un sort de la prière, il doit y avoir une telle fraîcheur dans l'âme. On doit se sentir tellement bien que c'est comme si que vous pouvez amener tous les plaisirs, toutes les beautés du monde de près de nous. Ça nous fait ni chaud ni froid. Parce que notre cœur est avec Allah. Oui. Normalement, ça peut être comme ça. Qu'est-ce qui fait que normalement, quel est l'objectif du jeûne A'allakum tattaqoun? Combien de fois on a entendu ça durant le mois de Ramadan? Mais qu'est-ce qui fait que dès que Ramadan est fini, je suis prêt à renouveler ma carte d'abonnement à la villa? Ou telle boîte de nuit, ou renouer avec ma copine, recommencer et retourner vers les mêmes péchés qu'avant, pour lesquels j'avais programmé mon retour. Qu'est-ce qui fait que? C'est que les a'mal sont là, mais haqiqa de la foi, il n'y a pas. Réalité de la foi, il n'est pas là. Et réalité de la foi, mes chers frères, ça peut arriver de différentes façons. La façon la plus simple, on va dire, c'est l'ilm, apprendre iman. Après, il peut arriver d'une autre façon, des coups de bâton. Ibtila. Ah, ça ou avance vite. C'est comme un mamay, il prend sa bague un ligne par jour, il avance pas, il a gagné, claque avec Moïsab. On tape pas, nous dit ça un exemple. Le lendemain, il fait deux pas, tac, direct. Il y retient. Ibtila, une épreuve. Électrochoc. Il arrive, Allah nous protège. Hein. Mais il y a des fois où, quand Allah Azza wa Jalla constate, et Allah il sait mieux que quiconque, qu'on n'avance pas, ben Allah envoie des épreuves et là on décolle. Mais il ne faut pas souhaiter en arriver à là. Parce que certainement, les épreuves, ça augmente le iman, ça efface les péchés, et ça vous donne un autre degré de spiritualité, à condition d'être patient, de se remettre à Allah. Et là aussi, hein, là aussi, ça reste rattaché à la sixième branche de la foi. Parce que si ça, on n'a pas développé, l'épreuve peut te faire perdre l'iman aussi. En disant des paroles de couvre, renier, pourquoi, pourquoi moi, et ainsi de suite, comme on avait vu dans Bab al-Sabr il y a quelque temps. Bref, donc mes chers frères, il doit y avoir une prise de conscience générale sur l'importance de développer le iman. Donc on a vu, on a dit quelques mots concernant al-iman bil malaika. On a vu l'étendue de la création des anges, et ce sont des makhlouqat, la ya'asoun allahama amarahum. Ils ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jalla. Ils ne savent même pas c'est quoi désobéir à Allah. Donc, quand on voit qu'ils ne désobéissent pas à Allah, ils font des actes d'adoration, mais pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, crée des hommes qui vont lui désobéir, qui pourront choisir le mal? Parce qu'Allah Azza wa Jalla attend de nous, justement, de faire les bons choix. Il n'y a que les êtres humains et les djinns qui peuvent choisir entre le bien et le mal. Les animaux ne peuvent pas. Les malaïkas, comme on a vu, ils ont été créés pour l'ibada. Et Allah Azza wa Jalla attend de nous. C'est là, c'est dans cette épreuve, quand je suis à un point précis, et j'ai deux chemins, le chemin A et le chemin B. Le chemin A, c'est le droit chemin, le chemin B, c'est le mauvais chemin. Et c'est là que je vais décider, est-ce que je vais suivre mes passions, mes pulsions, ou je vais me soumettre à Allah. Vous voyez, mes chers frères, à ce moment-là, Allah est très attentif à nos choix. Et Allah, il connaît qu'est-ce qu'on va choisir, parce qu'Allah, il est Al-Alim, qui connaît tout, mais c'est à ce moment-là qu'on doit faire très attention. Parce que kathratul ibadah, c'est bien. Mais tout le monde est là dans Ramzan. Tout le monde est là. Il n'y a pas un musulman qui dort. Ramadan, salatul fajr, tout le monde est là. Allah ne nous jugera pas sur notre présence de fajr, Ramadan. Mais Allah est généreux. Il est capable aussi de nous donner peu à peu. Ça, on ne doute pas. Mais dans un moment, qu'est-ce qui est extrêmement important pour Allah aussi? C'est dans un moment où on a le choix entre le bien et le mal. Et que personne ne nous voit. Personne ne nous entend. Yani, on peut faire le mal seul, sans qu'il y ait de conséquences. Et qu'à ce moment-là, je me dis que non, je ne peux pas. Je suis musulman, je suis un musulman, je suis soumis à Allah, Allah me voit, m'entend. Je ne peux pas décevoir Allah et j'obéis à Allah. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est peut-être la plus belle des choses qu'on peut faire de notre vie. D'où l'histoire de ce jeune homme. Tout le monde est grand ici. De ce jeune homme qui dit que toute ma vie, j'ai dragué une fille. Vous connaissez l'histoire de la grotte, la pierre qui était tombée, l'histoire des peuples d'avant. D'accord, ils ont une situation où ils allaient mourir dans une grotte. Ils ont dit qu'on va faire tawassul. Tawassul bil a'mal. Ça, c'est mashrou', ça. C'est-à-dire que vous levez les mains et dites, Wallah, en ce jour, il y avait quelqu'un dans la difficulté. Je venais d'avoir mon salaire et la personne allait être exclue de son appartement et tout et tout. J'ai donné tout ce que j'avais pour lui, pour qu'il s'en sorte, lui, sa femme et ses enfants. Wallah. J'ai fait ça par amour pour vous, parce que j'avais rien à gagner avec lui. Si, oh Allah, t'as accepté cette action, accorde-moi ton aide maintenant dans telle situation. Ça, c'est une action qu'il faut faire, ça. Ça existe dans le dîn. Donc, ils ont dit que la seule chose qui peut nous sauver, c'est demander doua en demandant intercession par le biais de la plus belle des actions qu'on a fait durant toute notre vie. Et si c'était une action remplie de dévotion, de sincérité, d'amour pour Allah, Allah va accepter le doua. Et les trois, ils ont tous cité une action. Et parmi ces jeunes hommes, il y avait un qui dit que toute ma vie, j'étais amoureux d'une jeune fille. Et je l'ai draguée. Je l'ai fait des avances et elle n'a jamais cédé. Jusqu'à un moment donné, il y a eu une famine, pénurie, manque de nourriture. Et elle vivait une situation extrêmement difficile, précaire. Et donc, elle m'a dit que voilà, ben c'est bon. On n'a plus rien. En échange d'une somme d'argent, je me livre à toi, ce que tu as toujours voulu, parce que je suis vraiment coincé, il n'y a plus d'autre solution. Ce jeune me dit que j'étais heureux comme pas deux. Enfin, mon rêve va se réaliser. Il dit que j'ai remis la somme d'argent à cette dame et je me suis dit que enfin, voilà mon rêve. Elle dit que, excusez-moi, le hadith est clair, elle dit que lorsqu'il s'est installé, comme on le sait, comme un homme s'approche d'une femme, au moment d'accomplir l'acte, la femme lui a dit « Crains Allah de ce que tu vas faire ». Et là, il a dit, j'ai eu un retour de foi. Vous savez, c'est quoi un retour de foi, vous? C'est quand tout d'un coup, là, on rappelle que les musulmans, et que tu te rappelles de toute ton éducation, de tes principes, de ton Coran, de ton Rab, de ton Seigneur, du retour vers lui. un retour de foi et dit que je me suis abstenu tout de suite. Et je vous aurais cité des détails, mais lisez le hadith en français. Il dit qu'il était à deux doigts d'accomplir le haram. Ça veut dire que pourquoi autant de détails de le hadith? Pour qu'on comprenne que qu'est-ce qui l'empêchait de le faire? Qu'est-ce qu'il y avait comme obstacle? Rien, aucun obstacle. Physiquement, il était à quelques centimètres de son bonheur recherché. Mais quand il a pensé à Allah Azza wa Jal, il dit que je ne peux pas faire ça. Il s'est rétracté, il a laissé l'argent, il dit tu prends ça en sadaqa. Et effectivement, j'ai retenu ton conseil, j'ai la crainte d'Allah dans mon cœur et il s'en est abstenu. Allah a tellement aimé son action qu'ils ont été délivrés par le biais, entre autres, de cette action. C'est-à-dire que durant toute la vie de ce jeune homme, c'était ça qu'Allah le plus aimait. Qu'on comprenne donc que nos choix, mes chers frères, c'est extrêmement important. On ne veut pas citer d'exemple de personnes qu'on connaît, parce que une personne m'a interpellé encore dernièrement sur... Elle a dû donner nasihat à un monsieur qui, malheureusement, était un petit peu à cette faiblesse de zina, de l'adultère. Quelqu'un qui peut faire des bonnes actions, sans me donner des noms ou autre chose, fait une bonne action, une journée, et après terminer sa journée par le haram, par le zina. Et la personne, après, il a écouté quelques paroles bénéfiques, alhamdoulilah, personne ne s'est rappelé. Mais ça, c'est très important. Quand on a le choix entre le bien et le mal, et que rien ne nous empêche de faire le mal, et qu'on pense à Allah, et principalement analyser l'exemple de cette personne, voyez comment Allah l'a gratifié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose d'énorme. En plus qu'Allah vous donne des récompenses, Allah va vous faire progresser dans la religion. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que « Man taraka shay'an lillahi, awadahu Allahu khayran minhu » Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui accorde quelque chose de mieux que ça. Et en commentaire du hadith, les ulama disent que Allah accorde à cette personne « halawatul iman » la douceur de la foi. C'est quoi la douceur de la foi? C'est un peu comme les sahaba, ils avaient. Que le moment le plus important pour eux, de leur vie, c'était quand ils vont se prosterner. Que quand on est dans les actes d'adoration, on se sent à l'aise, on se sent bien, on ressent cette chaleur, l'amour d'Allah dans notre cœur, on le ressent en permanence. Ça c'est « Al-ladha fil a'mal al-saliha » le plaisir des bonnes actions, la douceur de la foi. Et comment on l'obtient? En faisant passer les ordres d'Allah avant nos propres désirs. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que ce jeune homme, des actions aussi poussées. Non, ça peut être parfois des choses très simples. Vous êtes dans le bus, vous êtes dans la voiture, vous allumez la radio, il y a une chanson qui vous rappelle votre jeunesse. Ou alors, si vous êtes encore jeune, chanson, un tube de l'été, comme on dit, d'accord? Le truc que tout le monde écoute. Et dès qu'on entend, les premières secondes, on est dans le rythme direct. Tu joues ou bouge pas, on est dans le rythme. Tu éteins, dis « La wallah, astaghfirullah wa tubu ilayhi. » Astaghfirullah wa tubu ilayhi, pardon Allah, jamais. J'ai délaissé quelque chose qui me procure un plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas un plaisir dans la musique, oui ou non? Oui ou non? Il y a un plaisir dans la musique. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un plaisir à écouter la musique? Parce qu'Allah a accordé ça à Shaitan. Selon l'opinion de la majorité des mufassirin, wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika. La musique, le chant, ça fait partie des armes qu'Allah a accordées au diable, à Iblis. C'est pour ça qu'il y a des fois qu'on écoute une musique, on est, dites le terme, envoûté, ensorcelé. C'est comme si qu'on ne peut pas se détacher. Il y a quelque chose qui touche, quand on dit la musique adoucit les mœurs. Il n'adoucit pas rien. Il y a quelque chose de malsain qui vous emporte et qui vous donne l'impression que vous êtes bien. Ce n'est pas que vous êtes bien. Vous avez été possédé pendant quelque temps par la voix du diable, la voix de Shaitan. Donc, ça peut se résumer à des actions simples de la vie, le fait de ne pas écouter une musique qu'on a envie d'écouter uniquement par... Ce n'est pas parce qu'il y a Fundi à côté de nous, il y a papa, il y a maman, il y a Moulissab qui n'est pas loin, qu'on faiblit. Non, il n'y a personne, mais je le fais pour Allah. Vous êtes dans le bus, vous sortez du bus, vous êtes en voiture, vous êtes la nuit des soldes, Saint-Denis ou ailleurs, vous voyez de belles créatures, parce qu'il y en a de belles créatures, oui ou non? Il n'y en a point. Ah, vous dites, vous connaissez alors? D'accord? Il y en a. Mais de nos jours, hein, j'ai fait un constat. N'importe quelle femme peut être très belle. Avec le nombre de maquillages qu'il y a, parfois c'est de la peinture même, d'accord? Parfois il prend pinceau, il prend même spray, il finit plus. Bref, on peut tout transformer. On peut tout faire briller, oui ou non? On peut tout faire briller. N'allez mettre please tout à Ajax, vite please tout, Midjao. Bref, n'importe quelle femme peut se faire belle et attirante. C'est comme ça. Avec tout ce qu'il y a, des produits cosmétiques et autre chose, tout ce qui est artificiel. Maintenant, la beauté, c'est Allah qui donne la beauté. On ne parle pas si on la plaisante un petit peu, mais dire que dans notre vie de tous les jours, le fait de baisser le regard, c'est un signe de soumission vers Allah. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'aller loin, que être proche de l'adultère et qu'on se rétracte. Non, le fait de voir, d'être dans un centre-ville, il y a de belles filles, d'accord, et que qui est-ce qui nous empêche de regarder? Personne. La loi française ne l'interdit pas. Il n'y a pas toujours un musulman qui va vous dire « Attention, t'as regardé, je t'évite à regarder. » On n'est pas dans une cour de récréation, d'accord. Mais le fait de se dire que ça, c'est haram pour moi. Allah m'a donné des yeux, ce n'est pas pour regarder ça. Et j'ai la honte. Je développe l'amour d'Allah, la crainte d'Allah et la pudeur. Je ne peux pas me mettre dans une situation où Allah va me voir dans le péché. Ça, je ne peux pas. Ça, c'est au degré de iman, ça. Ça, c'est au degré de iman. Et dites-moi, est-ce que c'est impossible? Atama, l'impossible, Abdul Malik, il gagne ça. N'importe qui est capable. Dites-moi, pourquoi dans Ramadan, c'est possible? Oui ou non? Est-ce que dans Ramadan, hein? Il a enchaîné toute son race. Qu'est-ce qui fait que dans Ramadan, c'est tellement simple, c'est tellement évident de ne pas écouter la musique, de ne pas aller en boîte de nuit le samedi, de ne pas consommer du haram, de ne pas sortir avec une fille, de ne pas faire l'adultère. Et ainsi. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est en état de jeûne, après Dhuhr, il trouve une tantine, dit « Allons, fais une petite toile là-bas », il fait l'adultère. Ça n'existe pas, même pas un cas de l'histoire de l'islam, je pense. Ça m'étonnerait. D'accord? Parce qu'on a un degré de spiritualité, on a une prise de conscience de ce qu'on est en train de faire. Mais ça doit être mon état d'esprit tout le temps. Donc, on revient vers l'important de développer iman pour atteindre ces hauts états de iman, de spiritualité. Mes chers frères, qu'Allah nous accepte. On a été un petit peu plus long que prévu. La prochaine fois, on expliquera. On a fait une petite introduction sur un petit peu l'importance de connaître Alam al-Malaika, le monde des anges. La prochaine fois, on parlera de Jibril, Israfil, l'ange du paradis, Khazin al-Jannah, et l'ange qui est gardien de l'enfer. On se limitera à ça, Inch'Allah. Et on va voir comment le simple fait de connaître qui est Israfil et qui est l'ange qui amène la subsistance sur le dunya, ça augmente l'iman et ça vous donne une autre dimension. Ça donne une autre dimension dans votre relation avec Allah. Qu'Allah nous accepte. Subhanallah, bihamdi, subhanakallah, wa hamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Jazakum khair.